Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Et après, sur le terrain, suprême, quelqu'un qui est aussi attachant. Parce que...
On va se calmer.
Hein. Ah non, mais suprême, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Normand, moi, d'origine.
T'es d'où, toi, Polo ?
La famille, c'est Salo.
Ah, c'est juste à côté.
Une ville nouvelle.
C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau.
Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, mais toi, t'avais pas besoin de spot.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After, spécial Drôle de Dame, l'émission qui peut vous parler du Hertha Berlin et de Paolo Conte, de Paella et d'Harry Kane. Bref, 2 heures consacrées au foot et à la culture européenne, même pendant la quinzaine de tennis à Roland-Garros. Pour l'Espagne, le Henri Lecomte du lundi soir, aussi talentueux qu'émotif et dont on n'a jamais vraiment compris son jeu. Bonsoir Fred Hermel.
Et peut-être un petit peu dans Bonpoint aussi.
Hola
chicos.
T'as raison. De ressemblance physique aussi. Pour l'Angleterre, le Stefan Edberg du lundi soir, élégance et fair play, une confiance parfois excessive en son jeu. Bonsoir Julien Laurence.
Bonsoir Nico, salut à tous. Stefan Edberg, service volé, ça me va très très bien.
Tout à fait. Pour l'Italie, le Fabrice Santoro du lundi soir, expert du jeu, mathématicien du cours. Bonsoir Johan Crochet.
C'est beau. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous.
Et pour l'Allemagne, Ivan Lendl du football, bien sûr. Aussi peu souriant que pointu, fascinant et agaçant avec son jeu vintage. Paulo Breckner, bonsoir.
Bonsoir mon cher Nico, très bon choix avec Ivan Lendl, évidemment.
Je savais...
Et un autre malheureusement disparu, Vitas Girolaitis. Ça oui. C'était pour les plus anciens.
Alors les gars, vos 3 points de week-end, que s'est-il passé ? De quoi allez-vous nous parler ce soir ? Je commence avec toi Fredo.
Eh ben moi je vais vous parler du bas du classement, parce que c'est ce qui compte en Espagne. Malheureusement, le haut, il n'y a pas eu beaucoup de suspense cette saison. Le bas du classement, c'est 6 équipes pour une place de descente, et ça, le week-end prochain va être incroyable en Liga. Malheureusement, j'insiste pas par le bas. Il n'y aura pas l'Espagnol, qui est le deuxième, officiellement, deuxième division après Elche ces dernières semaines. L'Espagnol qui a subi, je pense, l'un des plus grands scandales arbitrales de ces dernières années en Espagne, après son match nul à Valence. Et à cause de l'arbitre, plutôt de l'incompétence des arbitres, l'Espagnol n'aura pas l'occasion d'essayer de garder sa place en première division la semaine prochaine.
Julien.
On va parler d'Everton qui s'est maintenu au bout du suspense hier et qui a envoyé en championship en deuxième division Leicester et Leeds. On va parler d'Harry Kane qui fait une saison magnifique mais malheureusement qui n'a pas suffi à Tottenham pour accrocher une place européenne après 9 ans en Coupe d'Europe. Luton, le promu incroyable, eux qui jouaient encore en 5e division il y a quelques années, on parlera aussi de ça. Et puis un peu sur Manchester United aussi qui fait quand même une saison assez magnifique.
Polo.
Bon, évidemment, on va revenir sur ce dénouement incroyable en Bundesliga et ce titre du Bayern, ce 11e à la suite à la 89e minute. Mais évidemment, on va ouvrir un dossier sur pourquoi est-ce qu'on a débarqué Oliver Kahn et Salihamidžić. Ça, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je peux vous assurer qu'en ce moment, il y a des papiers qui sortent en Allemagne partout avec des moments croustillants d'écriture pour expliquer ce qui est en train de se passer. On va revenir aussi, évidemment, sur le Borussia Dortmund parce que comment peut-on se relever de cette claque subie ce week-end alors que c'était la meilleure équipe à domicile. Et puis on va faire un petit focus sur un club qui pour la première fois va monter en première division, c'est évidemment Heidenheim avec cette finale extraordinaire qui s'est passée ce dimanche. Voilà.
Les 3 points de Johan.
On va beaucoup parler de la Juve ce soir et notamment d'un grand chantier cet été. J'appelle à la rénovation totale de la Juve, de la direction sportive à l'entraîneur en passant par les joueurs. Il y a vraiment un très très gros chantier à faire de ce côté-là. On va parler des 3 finales italiennes à venir en Coupe d'Europe avec la fameuse grande question: est-ce que le football italien a retrouvé son grand niveau d'antan? Pas si sûr. On va dire un petit mot d'Olivier Giroud également et puis du match du week-end avec un scénario complètement dingue à Monza.
Voilà pour vos 3 points qu'on va développer dans un instant jusqu'à 22h. À 22h, le Guy Forget de l'After sera avec nous. Gilbert Bribois, bonsoir.
Pourquoi Guy Forget ?
Je sais pas, il y a un truc, je trouve la longueur. Ah ouais. Forme d'élégance aussi, peut-être.
Ah oui, tu ressens à Guy Forget.
Il tutoie les sommets, hein, qui était top 5 mondial, Guy Forget.
Bon, d'accord. Alors.
Et puis, il était patron de l'équipe de France.
La capillarité tournois, aussi.
Voilà. Ouais. Et toi aussi, t'as une âme de patron.
Patron, quoi. Ouais. T'es patron de Roland Garros, de Bercy.
Mais c'est vrai que j'ai plus un air de Guy Forget que de Yannick Thomas. Je veux bien entendre. Alors, 22h, Daniel Riolo est là et il revient de week-end, il est chaud. On va parler des grandes manœuvres qui s'annoncent au PSG, Daniel veut en parler. Tudor qui devrait donc a priori quitter l'OM, mais l'OM doit-il tout faire pour le garder? Vos avis au 32-16. Flo Gautreau sera là également, lui veut parler du maintien, il estime que c'est Nantes qui va se maintenir, il va falloir qu'il sorte les arguments. Et puis qui sera le cocu de l'Europe? Est-ce que ce sera Lille? Est-ce que ce sera Rennes? Est-ce que ce sera Monaco? Là aussi débat. Sans oublier Mbappé qui veut rester, qui reste un an de plus au PSG. Mais enfin bon, est-ce que en gros il prend pas un peu le club en otage? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration? Parce que ça sous-entend qu'il voudrait partir libre. C'est un problème quand même pour Paris. On en débattra là aussi tout à l'heure entre 22h et minuit. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Gilbert, à partir de 22h à 20h45, votre rendez-vous. Les drôles d'âmes face aux auditeurs, vous faites le 32-16. Max est là, posez vos questions à Fred, Julien, Polo et Johan. Et elles y répondront. Le tennis également, c'est Roland Garros, bien sûr, avec Julien Taxis. Bonsoir, Julien.
Oui, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. Deux Français sur les cours actuellement, ce sont les deux petits prodiges que l'on attend comme la relève du tennis français. Arthur Fils face à Davidovic Fokina sur le cours Simone Mathieu. On est dans la quatrième manche, ça se complique très largement pour le tout jeune Français qui a remporté, on le rappelle, le tournoi samedi à Lyon. Peut-être un petit coup de moins bien physiquement, il commence à s'énerver, à s'agacer et il est mené 4-3 avec un break pour l'Espagnol dans le quatrième set. Luca Vanlache, ça c'est sur le cours numéro 4, vient de démarrer son match face à l'Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste, on le rappelle, il y a quelques années, en 2008, ici même à Roland-Garros. Ça a bien démarré pour Luca Vanlache, à 19 ans, vainqueur à Roland-Garros Junior 2021. On le rappelle, 3 jeux à 1 dans la première manche avec un jeu marathon, le troisième jeu du match qui a duré quasiment 15 minutes. Voilà, ça donne le ton de cette rencontre entre le jeune Français et l'Italien.
À tout à l'heure, Julien. Polo, quel samedi de feu en Bundesliga. Il aura donc fallu attendre la 89e minute de la dernière journée pour connaître l'identité du champion d'Allemagne. Et le champion, c'est un club en crise, le FC Bayern.
Ah, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé ce samedi. On n'avait pas vu ça depuis des années, évidemment. Mais puisqu'on a beaucoup parlé de tennis depuis le début, je pense qu'on pourrait peut-être inventer l'expression tu sais qu'il y a petit bras, jouer petit bras lorsqu'on a une balle de match pour soi, etc., contre un adversaire.
Bah, la
on
peur de gagner. Peut-être
la peur de gagner, avoir les petites jambes. Je ne sais pas si ça existe, ce mot-là. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur les dernières journées? C'est que celui qui pouvait gagner le titre a juste profité à chaque fois de l'erreur des autres. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bayern Munich, parce que c'était une énorme surprise ce qui s'est passé évidemment au Westfalenstadion et le fait que le Borussia Dortmund ne remporte pas sa rencontre contre Mayence. Et on savait que Cologne donnerait tout pour essayer d'embêter le Bayern Munich. Rappelons qu'à la 89e minute, il y avait 1-1 entre les deux équipes et donc que le Bayern était se retrouvait à un point derrière le Borussia Dortmund. Ce qui était, et puis on a évidemment Moussiala qui était un petit peu moins bien ces dernières semaines, qui rentre et qui met un but extraordinaire à la 89e et qui donne le 11e titre à la suite du Bayern Munich. En plus, à la mi-temps, on apprend, même si c'est pas confirmé, Bildt, Kicker, etc., qu'il se passe des choses dans les bureaux de la Sabenerstrasse, comme quoi Oliver Kahn et Salamichit qui étaient à Cologne, allaient être débarqués. Oliver Kahn, lui, n'était pas à Cologne. On apprendra par la suite qu'on lui avait interdit de se déplacer à Cologne. Dingue. Donc il s'est passé plein de choses. Les joueurs n'étaient pas au courant à ce moment-là exactement ce qui se passait. Et d'ailleurs, je vous conseille de lire un article extraordinaire de la Süddeutsche Zeitung, qui est un journal bavarois, plutôt centre-gauche et qui aime bien taper sur le Bayern Munich et qui donne des informations croustillantes sur ce qui s'est passé, le plan mis en place par Uli Hoeneß, etc., depuis quelques jours, en discussion évidemment avec d'autres personnes. Mais au-delà, et si on reste sur le sportif, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Moi, je compare ça à l'année 2000. À l'époque, Leverkusen, le grand Leverkusen, qui deviendra par la suite Leverkusen, évidemment, était mené avec 3 points d'avance sur le Bayern Munich, qui se déplace à l'époque à Unterharing, qui était un promu qui n'avait plus rien à espérer, et Leverkusen, qui avait dominé le championnat, trouve le moyen de s'incliner à Unterharing. Le Bayern bat Brême 3-1 de mémoire et l'emporte le titre. On est un peu dans ce scénario-là complètement fou qui s'est passé. C'est génial évidemment pour le public de la Bundesliga parce que ça fait un scénario de fin de rencontre. Donc voilà, faut résumer. Le titre 2023 a été décidé à la 89e minute de la dernière journée, ce qu'on n'avait pas vu depuis Mathusalem en Bundesliga. Liga. La seule chose qu'on peut dire, et ça on en avait parlé aussi dans l'after, c'est qu'à l'époque je vous dis oui, ça va se finir à peu près vers 75 points, et c'est pour ça que je vous parle peut-être d'avoir les petites jambes. Finalement c'est 71 points, c'est l'un des plus faibles montants de points de l'histoire de la Bundesliga. On est revenu en 2010 avec Van Gaal qui l'emporte avec 70 points, 69 points l'année d'avant avec Wolfsburg, la surprise en 2009. Tout ça fait que il y a beaucoup de choses à dire, mais le summum sportif a été atteint, c'est ce qu'on veut voir évidemment chaque saison.
Summum émotionnel, exactement.
Émotionnel, quoi. C'est extraordinaire parce que personne ne s'attend. Parce que faisons un petit aparté avec le Borussia Dortmund, comme ça on va traiter directement les sujets. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. Tout le monde s'attend à ce que le Borussia Dortmund mette une raclée à Mayence. Il se fait que ça se marche pas. 1-0 pour Mayence. Oh, penalty pour le Borussia Dortmund. On va se dire Sébastien Haller qui plantait doublé sur doublé depuis les deux dernières journées. Bon, on va dire allez, ils vont égaliser, puis ça va se faire, ça va le faire après. Non, il rate le penalty et tu te rends compte que la peur de l'événement. Borussia Dortmund incapable de jouer le jeu qu'il faisait depuis les matchs retour et qui finalement est mené 2-0, revient à 2-2 dans les arrêts de jeu, mais c'est trop tard. Mais c'est fou ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a vu, moi j'aime beaucoup ce qui s'était passé à l'époque, hein, parce que Julien est là en Angleterre, où on parlait, tu sais, des jeunes d'Arsenal contre les aguerris de Manchester United lorsque United dominait le championnat anglais. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux de plus donner comme avantage au Borussia Dortmund que le fait d'être en tête à jouer à domicile, toi qui es la plus forte équipe de cette
équipe
saison,
qui ne joue absolument rien en face,
qui ne joue plus rien, qui s'entend bien avec le club du Borussia Dortmund, et d'ailleurs qui sont critiqués, on en parlera un peu plus tard aujourd'hui, comme s'il fallait laisser le match, évidemment le titre, au Borussia Dortmund. Mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que tu veux de plus pour avoir, et donc en fait ça repose la question, mais finalement les fabuleux losers, ils ont été fêtés d'ailleurs après la rencontre, on peut aimer ça,
c'était impressionnant,
du Borussia, c'était impressionnant,
jaune, là,
c'est
dingue.
Mais moi je trouve quand même que c'est limite, parce que ce sont des sportifs de haut niveau. On a le droit peut-être de dire que c'est une faute professionnelle. Ce sont des joueurs, il y a quasiment que des internationaux, des grands internationaux, Marco Reus, Mats Hummels, champion du monde, etc. Emre Can, ce qui tu veux, des grands espoirs comme Bellingham.
Mais comment t'expliques la mansuétude des supporters du Borussia? Je comprends pas. Pourquoi ils fêtent ce titre qui leur échappe, en tout cas ce titre non glané, qui leur échappe pourtant depuis 2012.
Parce qu'ils ont aimé la saison.
Ils ont aimé la saison.
Ils ont aimé la saison. Ils ont aimé Edin Terzic, évidemment, ce qu'il a fait. Vous l'avez vu pleurer à la fin de la rencontre et tout ça. Parce que il est évident, si. Moi, je suis. Les gars, on fait le bilan en début de saison. On se dit, bon, que va faire le Borussia Dortmund? Borussia Dortmund a perdu Haaland. Le Bayern Munich, il est là, tranquille, il a ce Nagelsmann pour la deuxième saison. On se dit, ça va être tranquille pour le Bayern cette saison. Ouais. Il va le reconstruire. Et d'ailleurs, à la mi-temps, enfin, quand je dis à la mi-temps, à la mi-saison, le Borussia Dortmund n'est que sixième au classement et on sait même pas s'il va se qualifier pour la Ligue des Champions. Les matchs de Ligue des Champions, d'ailleurs, sont très moyens. Il n'y a pas de grand Borussia. On en a souvent parlé. Oui, j'aime beaucoup l'équipe, la polyvalence, mais ça fonctionne pas comme on veut. Dans les attaques placées, c'était pas terrible, hein, cette saison. Borussia Dortmund. Et puis, tu as la deuxième partie de saison qui est extraordinaire. Le Bayern qui commence à tousser un petit peu. Il passe devant, hop, et les autres qui repassent devant. On fait les erreurs, on perd les matchs qu'il ne faut pas. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Stuttgart ou le penalty non accordé, par exemple, à Bochum, etc. Le Bayern perd la semaine dernière un match que tout le monde disait c'était pour lui et Leipzig en profite pour aller en Ligue des Champions. Ça a été ça toute la saison. Et à la fin, on finit qu'avec 71 points. Donc, ça veut dire que le baromètre émotionnel a été génial. Maintenant, est-ce qu'on a un grand champion au sens de ce qu'on a vu sur les 10 dernières années? Moi, je dis attention à ça. Il va falloir faire le véritable bilan de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est terrible pour le Borussia Dortmund, pour Edin Terzic, évidemment, qui est un enfant du club et qui a poussé cette équipe jusqu'au bout. Moi, honnêtement, quand je prends du recul et que j'évite d'être trop dans l'émotionnel par rapport à ça, j'estime quand même que c'est une erreur. C'est
mais
presque une
oui,
faute
bien
professionnelle.
T'as un cadeau qui tient les bras comme ça, tu dois le saisir. Un mot sur l'avenir de Thomas Tuchel, bien sûr, la question peut se poser après les évictions d'Oliver Kahn et d'Hasan Salihamidžić. Est-ce que ça met en cause son avenir?
Non, lui, il est très content là-bas. Moi, j'ai vu des articles comme quoi. Alors, je vais pas encore taper.
Mais pas de son fait, hein.
Non. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il a une phrase très très juste après. Il dit évidemment ce qu'on a entendu, parce qu'une fois que le Bayern est officiellement champion à Cologne. Évidemment, la presse sort l'information comme quoi Kahn et Salihamidžić ont été démis de leur fonction. Et évidemment, ça touche les joueurs à ce moment-là, etc. Et Thomas Tuchel, on dit oui, mais ce qu'on vient d'apprendre de ce qui s'est passé à Munich, évidemment, ça jette un doute, un froid sur le titre et tout ça. Et puis, n'oublions pas que Salihamidžić et Oliver Kahn, c'est eux qui ont fait venir Thomas Tuchel. Donc, la situation pourrait être compliquée. Mais entre dire ça, alors que lui, il est très content d'être au Bayern. Rappelons quand même que c'est un swab, il est du coin, faut pas l'oublier non plus. Les déclarations, une fois de plus, de Didier Hamann. D'ailleurs, mon cher Julien, si tu pouvais trouver un boulot pour Didier Hamann, qu'il arrête de commenter...
Lui, il annonce carrément que c'est fini pour Thomas Tuchel.
Non, mais c'est faux, mais c'est
catastrophique.
Mais c'est catastrophique, mais il change d'avis, il a passé son temps à critiquer le Bayern. Lui, c'est un ancien joueur du Bayern, mais il ne faut pas l'oublier. Il a critiqué la méthode, les méthodes pour avoir licencié Kahn et Salihamidžić, alors qu'il passait son temps à critiquer Kahn et Salihamidžić lorsque eux deux étaient encore en place. Donc, il faut arrêter 5 minutes. Moi, Didier Hamann, je le renvoie en première ligue, il n'y a pas de souci, trouve-lui un boulot là-bas. C'est insupportable de l'entendre sur Sky, de faire comme ça des petits trucs. Il n'y a aucune raison que Thomas Tuchel ne soit pas content d'être au Bayern Munich. Il va d'ailleurs ressortir quelque part comme l'homme fort de la situation, parce que lui, il récupère une situation, ne l'oublions jamais.
Il est champion d'Allemagne, hein, Thomas Tuchel.
Il finit champion d'Allemagne. Oui. Voilà, c'est la première fois de sa vie.
Voilà pour ce mano mano hein, qui se termine par la victoire finale du FC Bayern. Dans un instant, on va parler de la course à l'Europe en Première Ligue. On sera également dans la course au maintien en Liga passionnante. Ce sera ce week-end avec Fred Armel. D'abord le tennis, un Français en moins dans le tableau principal à Roland-Garros, Julien Taxis.
Et oui, un de plus ou un de moins, très précisément. Arthur Fils, fin de l'histoire pour son premier Roland-Garros. Il a été dominé assez nettement, finalement, en trois manches par la tête de série numéro 29, l'Espagnol Davidovich Fokina, 6-1, 4-6, 6-3, 6-3, Davidovich Fokina qui retrouvera au prochain tour le vainqueur du duel qui se passe en ce moment même entre Luca Vernache et Cecchinato. Et là, bonne nouvelle pour les Français, ça se passe plutôt bien pour Luca Vernache qui a remporté la première manche, 6 jeux à 1. Un troisième Français sera sur les cours dans quelques instants, Alexandre Muller face à Yannick Sinner en light session sur le central.
La suite de Génération After avec les 4 drôles de dames. Merci d'écouter RMC 20h16, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Armel et Johan Crochet, on est ensemble jusqu'à 22h avec les drôles de dames comme tous les lundis soirs. Après l'Allemagne, la course à l'Europe en Première Ligue a livré son verdict. Julien, on connaît tous les qualifiés pour la Ligue des Champions. En revanche, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Chelsea, hein, et sa saison ratée cette saison, un peu moins de Tottenham aussi. Qui ne jouera pas, et c'est officiel, de Coupe d'Europe la saison prochaine, mon cher Julien, c'est un événement en Angleterre.
Ouais, c'est un événement effectivement, tu as raison Nico, parce que ils étaient assez finalement constants à ce niveau-là sur les dernières saisons, surtout en Ligue des Champions bien sûr. Et c'est vrai que là, terminer comme ça à cette 8e place, très pauvre finalement, 14 défaites cette saison pour Tottenham. Ils ont changé d'entraîneur plusieurs fois, puisque bien sûr Antonio Conte avait commencé la saison, ensuite il s'est fait remplacer par son adjoint à lui, Christian Stellini, avec qui ça n'a pas du tout marché. Ryan Mason est devenu le troisième entraîneur de la saison pour terminer cette campagne, justement essayer d'accrocher une place européenne, et au final ça s'est effondré sur la fin. Ça montre, et encore une fois on en avait parlé avant, mais le pauvre management, on va dire, des propriétaires du club, dont Joe Louis, qui habite aux Caraïbes quelque part, qui n'est pas du tout intéressé par le club, mais pourtant qui détient ce club là par bien sûr Daniel Levy, qui est le président, celui qui dirige le club au jour le jour, qui a beaucoup de mal et dans le recrutement et aussi bien sûr dans le choix des entraîneurs, clairement, parce que ça fait quand même plusieurs saisons maintenant, de Nuno à Mourinho, en passant par Conte bien sûr, et puis tous les autres cette saison où ça ne fonctionne pas du tout. Et puis après, bien sûr, en termes de recrutement aussi, on a vu des joueurs cette saison qui ont porté le maillot de Tottenham, qui n'auraient jamais dû dans cette équipe-là être sur le terrain. Donc ça fait beaucoup.
Tu penses à qui, par exemple?
Un joueur comme Emerson Royal, je suis désolé, même s'il a eu quelques bons moments dans la saison, c'est catastrophique. Ça n'a pas du tout le niveau d'une équipe comme Tottenham qui vise le top 4 en Angleterre, qui il n'y a pas si longtemps était en finale de Ligue des Champions. C'est pas à ce niveau-là. Même un Pedro Porro, qui sont allés payer très très cher au Sporting en janvier, qui a montré beaucoup de limites, même si en phase offensive ça peut être intéressant parfois, mais donc voilà, il y a pas mal d'erreurs. Comment est-ce que, bien sûr ils ont eu des blessures, ils ont perdu Bentancourt par exemple à un moment clé de la saison qui leur a fait beaucoup de mal, Heung-min Son qui est le l'ombre de ce qu'il a pu être la saison dernière par exemple. Donc il y a eu des circonstances aussi qui ont fait que cette saison n'a pas été bonne. Mais quand tu penses qu'Harry Kane inscrit 30 buts cette saison en championnat, uniquement en Première Ligue, 30 buts cette saison, dans une équipe pareille, en bois, qui ne fait rien pour lui, et que tu penses que Haaland marque 36 buts dans une équipe comme City qui est formidable, qui est une machine à créer des occasions, à jouer avec du mouvement, etc. Il y a presque plus de crédit finalement à la saison de Kane que celle d'Haaland, même si Haaland est incroyable.
Ça, bien sûr.
Mais c'est assez incroyable. Et pour la deuxième fois de sa carrière, Kane finit avec 30 buts ou plus en Première Ligue, et à chaque fois, il finit pas meilleur buteur, puisque Salah, la première fois, avait plus de buts que lui, et là, c'est Haaland. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable.
Non, Julien, franchement, on a envie de lui dire encore une fois, on a déjà parlé, mais va voir ailleurs Harry Kane. Va jouer un trophée, un titre qui t'échappe avec Tottenham depuis que t'es dans ce club. Je sais pas ce qu'il en est. Ça va sûrement agiter un petit peu le feuilleton estival.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qu'il va encore faire dans ce pétrin-là? Sans Coupe d'Europe, pour lui, c'est pas digne de son rang, de son statut, de son talent également. 30 buts.
C'est vrai.
En première ligue.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Il lui reste un an de contrat.
Polo.
Oui, mais je pense le Bayern.
Le Bayern doit réagir.
Le Bayern doit réagir, entre autres. Je te coupe 10 secondes.
Il y a beaucoup de monde qui circule en Bayern, mais il y a des rumeurs. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui signe le chèque, évidemment. C'est pas quel joueur arrive et c'est si comment on signe le chèque. Et il se dit que dans la révolution qui se passe en ce moment au Bayern Munich, donc le départ d'Oliver Kahn et évidemment Salihamidžić, il faut faire plaisir aux supporters. Et pour faire plaisir aux supporters, il faut que les actionnaires minoritaires du FC Bayern, vous savez, les fameux 3A, donc Audi, Adidas et Allianz, mettent peut-être un petit peu d'argent cette année en plus pour aller chercher un grand attaquant parce qu'on peut pas continuer comme ça. Et donc moi, évidemment, je le dis souvent, enfin on a discuté avec Julien, je sais pas ce que fera Harry Kane, en plus c'est un Anglais, c'est une île, il fait un peu ce qu'il veut, etc. Mais mais c'est vrai, c'est pas toujours évident quand tu vis dans une île de t'expatrier. Plus quand tu c'est pas évident, c'est bien connu ça.
C'est une très grande île, oui.
Ça reste une île. Et il se dit qu'il chercherait évidemment à mettre un petit peu plus d'argent et c'est peut-être ce qui manque pour aller chercher.
C'est combien le salaire d'Harry Kane, Julien? T'as une idée ou pas approximative?
Ouais, je crois qu'en ce moment-là, donc c'est le joueur le plus. Il a longtemps été sous-payé, mais là c'est le joueur le plus payé à Tottenham. Il a 11 millions d'euros par saison. Donc ça va non plus.
C'est rien pour Paris.
Par exemple, c'est moins Cazard qui est le joueur le plus payé du Real Madrid. Donc parce que le Real,
Julien Cazard.
Oui. Moi,
hasard. Sadio
Mané,
oui,
on parle de 20 millions.
20 millions, Sadio Mané, tu vois.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Non, mais
c'est
Coman aussi, pas loin. Le Real peut s'intéresser à Harry Kane aussi parce que, il y a Benzema, il peut plus jouer tous les matchs, quoi. Donc, à un moment, le Real Madrid a
le gros
besoin...
tête d'affiche, comment tu gères ça? Benzema, Kane, alternance, ensemble, c'est compliqué. Pourquoi pas?
Oui, parce qu'il y a Rodrigo et puis il y a Vinicius sur les côtés. Mais donc, je veux dire, à un moment, le Real Madrid est obligé d'avoir un vrai buteur sur lequel tu peux compter deux fois par semaine, quoi.
En Italie, la question se pose pas.
Le plus intéressant,
Johan, pas d'argent.
On n'a pas de sous, nous. On n'a pas de sous, non, c'est pas la peine.
On a encore à lire.
Voilà, mais nous, on fait pas dans la charité, nous, de toute façon. Mais après, ce qui va être intéressant, il y a deux choses. Pour Kane, c'est que Daniel Levy et Tottenham vont vouloir le vendre parce qu'il lui reste un an de contrat et il prolongera pas son contrat. Il aura 30 ans le mois prochain. Eux vont vouloir le vendre à l'étranger parce qu'ils ont pas envie de renforcer un adversaire comme un Chelsea par exemple ou un Manchester United, qui sont deux clubs qui vont chercher un attaquant de son statut à lui. Et en revanche, pour Kane, lui, ce qu'il veut, même si je pense qu'il aimerait peut-être aller au Bayern ou au Real, bien sûr, dans ce genre de club-là, c'est qu'il a envie de battre le record du plus grand nombre de buts marqués dans l'histoire de la Première Ligue, qui est détenu par Alan Shearer. Il est qu'à 50 buts. Il a besoin de deux saisons en Première Ligue encore, peu importe le club finalement, parce qu'on voit que même dans des équipes en bambou, il arrive à marquer 30 buts. Donc, s'il va dans une meilleure équipe comme Manchester United, Chelsea, c'est pas forcément donné, mais il retrouverait Pochettino avec lui à Chelsea, qui sont quand même son père spirituel. Donc, c'est ça un petit peu le paradoxe. Et juste pour finir sur les attaquants, cet été sera quoi qu'il arrive un mercato des attaquants, des numéros 9. Parce que si on pense au Bayern, à Chelsea, au PSG, voire peut-être au Real Madrid, à Manchester United, il y a beaucoup de clubs qui vont chercher ce grand numéro 9.
Il n'y a pas de club italien dans ta liste
Non mais j'arrive aux Italiens, mon yo, parce que il y a aussi des grands numéros 9 qui vont peut-être bouger, comme un Vlahovic, comme un Osimhen, comme un Kane, bien sûr. Et c'est, je pense que c'est vraiment cette position-là qui va vraiment animer le marché cet été.
Johan.
Non, c'est vrai, il y a Milan qui cherche un neuf quand même aussi, mais ce sera pas le même profil, on sera pas dans ces ordres d'idées, de prix, on sera plutôt sur un jeune joueur prometteur, type Balogun, Jonathan David, ces attaquants-là. Mais pour revenir à Harry Kane, moi je trouve intéressant et assez fascinant en fait, cette idée de record du nombre de buts marqués en Première Ligue en fait. Ça peut le driver aussi dans son choix en fait, parce que écrire l'histoire, on sait qu'il y a plein de joueurs qui sont à la recherche de ça, de rester ça, dans les livres des records, etc. Kane est un joueur formidablement collectif, je trouve, qui joue très bien avec les autres, etc. Mais ça peut être aussi une partie du choix peut venir aussi de ça, au-delà même de ce que disait Polo. Je suis d'accord sur l'histoire de Lille, même si c'est une très grande île. Il faut voir aussi si les Anglais se...
C'est
très compliqué.
Il est très anglais, Harry Kane, ou pas? J'aime pas l'expression.
Ouais, bien sûr. Je veux pas révéler de secret, il a une très très belle maison, pas très loin de chez moi d'ailleurs. Et devant sa maison, il a un mât, c'est ça qu'on dit en français? Un mât avec le drapeau anglais.
Très tendre, ça.
Voilà.
Avec l'Union Jack ou le
patriotisme
fait toujours à Fredo. Non, mais l'anglais ou l'Union Jack?
Non, l'anglais,
d'accord.
Ouais,
très anglais.
Mais c'est comme ça, c'est facile de reconnaître sa maison parce que effectivement, il y en a pas beaucoup.
C'est sûr que c'est pas le drapeau géorgien et qu'il est fan de Gvara. Non, c'est
ça peut être ça aussi. Ça pourrait.
Mais c'est vrai que les Anglais, on a eu plein d'exemples en Espagne où alors il y en a un qui a un modèle d'intégration, c'est McManaman. McManaman, on a l'impression qu'il était dans une famille espagnole, mais ça a souvent été compliqué pour des Anglais ou pour des Britanniques.
Beckham était universel.
Beckham, moi j'ai adoré Beckham, mais Beckham il parlait pas espagnol au bout de ses 5 ans à Madrid, oui, quoi, ça, voilà. Oui. Et Poche disait toujours que Madrid ça sentait l'ail. Donc oui bien sûr, c'était l'une, alors c'est un truc mythique, c'est l'une des plus grandes interviews.
Ça sentait l'ail.
Qui avait dit it smell garlic. Elle dit qu'elle n'aimait pas trop Madrid parce que ça sentait l'ail.
Mon Dieu.
Donc, mais je vous jure que c'est vrai. Mais Julien, tu t'en souviendras de ça.
Oui, tout à fait, je m'en souviens.
C'est vrai, c'est
bon, très bien. Donc, y a les villes ont une odeur, j'aime bien l'idée, pourquoi pas.
Mais non, c'est vrai qu'en Espagne, on aime bien manger de l'ail.
Et Madrid, c'est quand même là où le couple Beckham a explosé quand même, puisque c'est là où il a eu le... La relation extra-conjugale révélée en tout cas.
L'adultère.
Il a explosé, mais finalement, il s'est reconstitué le couple.
Avec
une journaliste de la version anglaise de Real Madrid Télé que je connaissais très bien.
Mais ceci ne nous regarde pas plus désormais. C'est parti pour la première minute de la soirée. Fred, elle est pour toi. On envoie la musique, Toto.
La tarde que le conocí, elle acababa de cumplir 18 años.
Vous connaissez, c'est l'une des plus belles chansons de l'histoire de la langue française. Il venait d'avoir 18 ans, écrit d'ailleurs par Pascal Sevrant pour Dalida. Et vous savez, l'espagnol est une langue tellement importante dans le monde que...
Bah oui, il nomine la chanteuse égyptienne,
il est
francophone sur une chanson espagnole.
On a dit espagnole. Qu'on ne pouvait pas tout
ça
à l'heure.
C'est tiré par les cheveux,
incroyable.
Alors, je vais faire Mireille Mathieu, toutes ces traductions en allemand, tu vas voir.
La musique espagnole, j'ai failli prendre une chanson italienne parce que, vous savez, la musique espagnole, la langue est tellement importante que ça prend tellement de pays que beaucoup de chanteurs chantent en espagnol. Et Dalida chantait très bien l'espagnol. Pourquoi 18 ans? Parce qu'à 18 ans, on peut voter. Et qu'est-ce qu'il y a eu hier? Eh ben, il y a eu les élections municipales et régionales en Espagne. Et c'était très intéressant de voir les équilibres footballistiques dans les élections. C'est-à-dire que quand tu es maire ou quand tu es président d'une région, il faut faire très attention. Déjà, tu dois déclarer ton équipe. Souvent, on connaît mieux ton équipe que ton programme électoral. Hein. Et par exemple, à Madrid, l'équilibre est respecté. Le maire de Madrid qui a été réélu, c'est un pro de l'Atlético. La présidente de la région de Madrid, c'est une pro Real Madrid. Mais vous savez, par exemple, il faut faire très attention. Quand le Real gagne la Ligue des Champions, il est reçu à la mairie. Bah le maire, il doit faire être très diplomate, c'est-à-dire célébrer les madridistes sans fâcher les supporters de l'Atlético qui sont très très anti-Real et qui sont aussi des électeurs. Quoi, voilà. Moi, je me souviens par exemple le nouveau maire de Barcelone, Xavier Trias, qui lui avait déjà été élu il y a deux législatures. Grand supporter du Barça, un jour avait dit ça me ferait mal si mon gendre était du Real ou de l'Espagnol. Ouais, sauf qu'il y a quand même des votants de l'Espagnol à Barcelone, donc il avait dû faire une aide pour s'excuser auprès des supporters de l'Espagnol, parce qu'il y a des enjeux politiques. Moi, je me souviens d'un match de Ligue des Champions au Sanchez-Pizjuan, entre le Séville FC et Lille, le LOSC. Et il y avait à l'époque le maire bien sûr, représentation officielle, et dans le stade du Sanchez-Pizjuan, le stade du Sevilla. Sauf que lui, il est ouvertement, et parce que tout le monde est ouvertement d'une équipe, du Bétis, et quand on connaît l'opposition, et j'ai vu des gens qui les insultaient dans le stade, quoi. Donc voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil aux élections hier en disant qu'en Espagne, tout politique qui se présente à un poste à responsabilité doit montrer ses couleurs footballistiques et doit bien faire de la diplomatie pour ne pas se choquer ceux qui ne sont pas des mêmes couleurs que lui.
Dramatique plus que intéressant.
Non, mais intéressant dans le rapport au football d'un pays, effectivement, t'as raison, c'est dramatique.
En France, on s'en fout.
On vote pour un programme, des idées.
Non, mais c'est pas qu'on va pas voter pour quelqu'un parce qu'il est de la petite gueule. Mais sauf qu'en tant que.
On peut ne pas voter pour quelqu'un qui peut faire n'importe quoi.
Il peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est une donnée dans les élections.
À prendre en compte. Bon, peut-être. Enfin, il y a un peu de démagogie quand tu imagines que certaines villes, il y a plus de supporters d'une équipe que d'une autre.
On peut déclarer supporter.
Mais le maire de Madrid, il y a 4 supporters du Real pour un supporter de l'Atlético Madrid. Voilà, et le maire de Madrid, il est de l'Atlético. Mais comme il est toujours très respectueux avec le Real, ça passe, il doit faire très attention.
Allez, dans un instant, justement, la Liga, la lutte au maintien pour toi en Espagne qui sera passionnante, ce sera ce week-end. Et puis, on vous accueille à 20h45. Et beaucoup de questions d'ailleurs. Déjà, ce direct studio pour Paulo Breitner, on nous parle de Rami Ben Sebaini, on nous parle de Füllkrug également pour l'attaque du FC Bayern. On essaiera d'évoquer ces sujets avec Paulo à partir de 20h45. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Paulo Breitner, Julien Laurent, Johan Crochet et Fred Hermel. Il y a du tennis actuellement, mais il y a aussi du basket. Messieurs, c'est les demi-finales du championnat de France de basket qui oppose Monaco à Bourg-en-Bresse sous les yeux de Maxime Thiette. Salut Maxime.
Exactement, salut, bonsoir à tous, sous les yeux également encore une fois de Kevin Durant, la superstar NBA qui est encore présente. Long week-end pour lui, qui a assisté évidemment au Grand Prix. Alors on m'a cité pas mal de noms, Conor McGregor notamment, qui devrait faire son arrivée tout à l'heure dans la salle. Enfin bref, on est quand même là pour un match de basket.
Neymar n'est pas là, Maxime.
Non, je scrute, mais on m'a pas annoncé sa présence en tout cas, et pour le moment, je ne le vois pas. Seulement Kevin Durant, et c'est déjà pas mal. Sur le parquet, ça se passe pas mal aussi pour Monaco. 6-2, après 2 minutes 45 de disputer. Monaco qui a éliminé Strasbourg, et les Bressans, eux, se sont défaits de Dijon. Et là, cette série se joue en revanche au meilleur des 5 manches, contrairement au tour précédent, au quart de finale. Et pour le moment, ce sont les Monégasques qui sont mieux partis après 3 minutes. Ça fait 6-2 pour la Rocati.
Tiens, réaction à ta minute Fred sur Direct Studio. Raleigh nous dit en France ce côté politique n'existe pas car c'est le seul pays qui ne compte pas deux grandes équipes dans une même ville. C'est ça qui est dramatique.
Bien sûr. Même si on a eu quand même un football très politisé à un moment, du temps de Tapie, par exemple, Tapie est devenu homme politique, ministre
de la ville. Exactement.
Voilà, c'est pas député d'ailleurs aussi.
Bon, Fred, justement, avant la dernière journée de Liga ce week-end, le suspense chez toi, c'est pas en haut. Ça dit tout ton championnat cette saison qui donne un ennui assez profond. Voilà.
Oui.
Presque un championnat suisse, tu vois. On connaît les qualifiés pour les Coupes d'Europe. En revanche, en bas, grosse baston à venir pour le maintien.
C'est-à-dire que moi, j'écoute les copains et je les envie parce que d'avoir un champion la dernière journée, 89e minute, etc. Nous, en haut, on a eu cette saison, tout était clair depuis des semaines, en fait. On savait à peu près, on savait qui allait être champion, on savait qui allait se qualifier pour les Coupes européennes. Alors, c'était confirmé, la Real Sociedad, là, mais on savait très bien qu'elle était quasiment qualifiée. Au pire, elle était en Ligue Europa. Mais c'est en bas que ça se passe. C'est en bas que ça se passe, puisque Cadix, 13e, 41 points. 14e Retafe 41 points, 15e Valence 41 points, 16e Almeria 40 points, 17e Celta 40 points, 18e Valladolid 39 points. C'est-à-dire qu'en 2 points, vous avez 6 équipes pour la dernière place qu'il reste pour la descente en deuxième division. Il y aurait dû avoir 7 équipes. 7 équipes parce que l'Espagnol n'aurait jamais dû être officiellement relégué hier. Alors déjà, ça veut dire que 6 ou 7, c'est-à-dire qu'un tiers du championnat à la dernière minute, à la dernière journée, se dispute la dernière place pour descendre. Donc c'est quand même dingue. Le niveau est très bas. Il joue avec la peur, ça c'est un peu normal. Moi, ce que je regrette, vraiment, j'en ai vu beaucoup des matchs en Espagne. J'ai vu beaucoup de scandales autour du VAR, de l'intervention du VAR ou de la non-intervention du VAR. D'ailleurs, il y a 6 arbitres VAR qui vont être virés à la fin de saison. La fédération se rend compte qu'il y a un gros problème en Espagne.
Incompétence ?
De l'incompétence, oui, on va dire que c'est de l'incompétence.
On pourrait dire plus peut-être parfois ?
Je ne suis pas complotiste, donc je ne vais pas dire. En tout cas, moi, si j'étais supporter de l'Espagnol, et moi, comme je suis supporter du foot espagnol, je regrette que l'Espagnol, la deuxième grande équipe de Catalogne et une deuxième ville d'équipe de Barcelone, joue son match à Valence. C'est-à-dire que c'est le match de la dernière chance pour Valence, enfin quasiment pour Valence, et surtout pour l'Espagnol. L'Espagnol mène 2-1, et là se produit une série d'erreurs qui sont mais catastrophiques et ultra préjudiciables pour l'Espagnol. Vous avez le troisième but de César Montes, qui est mexicain, de la tête. Mamardashvili, le gardien, fait une mauvaise sortie. Le but est annulé pour charge sur le gardien.
Alors qu'il ne le touche pas.
Il ne le touche pas.
Bras le long du corps. Il va plus loin que le gardien.
Voilà, non, c'est-à-dire qu'il est plus bon. C'est une mauvaise sortie du gardien et lui, il met le but. Donc déjà, ça faisait 3-1 à l'extérieur. Enfin, je veux dire, Valence aurait eu du mal à revenir. Ensuite, Valence revient avec un but de Lino. Il y a faute au départ. de l'action. Faute évidente que ce n'est pas l'arbitre. Les joueurs d'Espagnol se plaignent, etc. Le jeu continue, ils marquent. Nous sommes dans le temps additionnel. Je crois que c'est la cinquième minute du temps additionnel. Là, il y a un pénalty sur Braithwaite, évident. Braithwaite qui joue aujourd'hui à l'Espagnol, qui n'est pas sifflé. Et le VAR, c'est-à-dire que l'arbitre n'est même, le VAR a regardé ce que regarde tout, mais n'a pas appelé l'arbitre pour avoir les images. Donc, si vous ajoutez à cela, que la semaine dernière, l'Espagnol, il y a un but de Griezmann, la balle ne franchit pas totalement la ligne, ce qu'on appelle un gol fantasma, un but fantôme. L'arbitre l'accorde. Vous savez pourquoi? Vous allez dire, bah oui, mais il y a la goal line technology. Bah non, parce que la Liga n'a pas assez d'argent pour payer la goal line technology qui coûte 4 millions.
C'est une question de moyens.
C'est une question de moyens. 4 millions, Tebas n'avait pas les moyens de payer 4 millions. Donc, ce qui fait que l'Espagnol va descendre parce qu'il n'y a pas assez d'argent en Liga. Est descendu. Enfin, en tout cas, n'a pas pu se battre jusqu'à la fin pour sa survie. Et parce qu'il y a des erreurs dans le VAR terribles. Donc, je pense que ce qui se passe avec l'Espagnol est un peu le reflet de cette saison vraiment catastrophique du foot espagnol. Donc, puis sincèrement, moi, je regrette qu'il y ait. L'Espagnol, c'est un grand club en Espagne. Enfin, voilà. Alors, ils ont l'habitude de faire l'ascenseur. Hein, ils ont un propriétaire chinois, etc. Bon, c'est pas toujours facile. Mais je trouve ça dommage. En tout cas, ce que je ne trouve pas normal, c'est que l'Espagnol n'ait pas la possibilité de se battre jusqu'au bout pour des décisions catastrophiques des arbitres.
On suivra ça. Multiplex, quand?
C'est Multiplex dimanche à 21h. Je vais vous donner les matchs parce qu'ils sont exceptionnels. Vous avez un Valladolid Retafé à la Via la Mort qui va être incroyable. Donc vous avez pour la descente les matchs 21h. Betis Valence, Celta Barcelone, Real Valladolid Retafé, donc terrible. Elche Cadix, alors Elche est des gens de l'émission, mais Cadix doit se sauver. Et puis vous avez Espagnol Almeria, Almeria qui n'est pas encore sauvé non plus, donc qui est 16e. Donc ouais, est-ce que l'Espagnol qui est descendu va faire un barreau d'honneur? Enfin voilà, c'est.
On regardera ça dimanche à 21h.
Voilà. Sera après c'est toujours passionnant parce que ça fait du suspense. Mais sincèrement, moi je préfère quand il y a le suspense en haut plutôt qu'en bas.
C'est parti pour la deuxième minute de la soirée. Elle est pour Johan Crochet. On envoie la musique, Toto.
Parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore.
Le grand Lucio Battisti, chanson Emozioni, il raconte un peu certaines émotions, se lever le matin à travers la brume, parler avec un pêcheur, etc. Il y a pas mal de choses qui sont racontées à travers cette chanson et les émotions, évidemment, c'est ce qui nous fait aimer le football aussi, parfois ce qui nous le fait détester aussi, clairement, quand on est supporter. Mais on a eu ce week-end, lors du match Monza-Lecce, un scénario assez dingue parce que Lecce se bat pour ne pas descendre. Lecce est une équipe qui a la plus petite masse salariale d'Italie, est un club qui fait souvent le yo-yo parce que c'est un peu son destin, parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire mieux. On est dans le sud de l'Italie. C'est pas là où viennent les mécènes mettre beaucoup d'argent. C'est un club par contre qui recrute très bien avec l'ami Corvino, directeur technique, qui était déjà passé par Lecce. Vous vous souvenez quand il était venu, dans les années 2000, les Chevanton, les Mirko Vucinic, etc. C'est lui qui les avait découverts. Ensuite, il est passé à la Fiorentina avec sa filière à l'est, Jovetic, Milenkovic, Vlahovic, etc., etc. Et Lecce a réussi à obtenir son maintien lors de ce match à Monza. Avec un scénario dingue, puisque à la 84e minute, il y avait 0-0. Penalty pour Monza, penalty tiré par Guy de Kier, un attaquant qui était rentré en deuxième mi-temps. Falcone, le gardien de Lecce, l'arrête, le repousse. 99e minute, si Guy de Kier avait mis son penalty, Lecce aurait vraiment été dans une situation compliquée en vue de la saison de la semaine prochaine et pour se maintenir. 99e minute, le même Guitier qui rate le pénalty un quart d'heure avant, main dans sa propre surface. Il donne pénalty à Lecce. Et là, c'est Colombo qui le transforme alors que le gardien le touche des jambes. Et donc, ça donne le maintien à Lecce. Et ce qui est dingue, c'est que, pour ça que je parle d'émotion, un type comme Roberto Baronio, qui est l'entraîneur de Lecce, qui fait partie de la grande époque du Napoli de Maradona. Voilà, peu de gens savent que Roberto Baronio, entraîneur de Lecce, était défenseur central dans la grande équipe du Napoli de Maradona. Qui a tout vécu, parce qu'il a joué avec Maradona, parce qu'il a gagné des trophées européens, il a gagné des Scudetti, parce qu'il a vu des matchs de Coupe d'Europe, etc. Et ben, il était à genoux, voilà, en train de remercier le ciel comme le font beaucoup en Italie. Il n'en revenait pas parce que c'était une saison galère. Ils avaient très bien commencé, ils battaient beaucoup de gros, ils avaient vraiment une attitude à vraiment pousser les gros, battu la Lazio, ils avaient joué contre la Roma, ils avaient obtenu des résultats, Milan, etc. Ça avait été très compliqué pour les gros. Et puis d'un seul coup, tout s'est effondré, ils prenaient plus un point, ils réussissaient plus rien, devant le but, ils rataient tout. Strefezza, qui était un leader cette saison, lui ratait tout en deuxième partie de saison, etc. Et moi, je suis content qu'un club comme ça, qui mise sur le jeu, pas aussi ambitieux que beaucoup de clubs, mais qui mise sur le jeu, le scouting, qui travaille bien, qui a une petite masse salariale, qui a une très grosse base de supporters, bah reste en Serie A grâce à ce pénalty de
Il y avait 4 Français notamment qui ont débuté ce match, hein, Rémi Houdin, Samuel Umtiti, on parlera de son avenir au cours de l'été. Ouais. Il intéresse pas mal de clubs. Valentin Gendré qu'on a reçu d'ailleurs, ouais, un lundi soir avec saison. Vous les drôles de dames. Et j'oubliais Alexis Blin, bien sûr. Au milieu de terrain. Voilà pour la minute de Johan. Eric Salio est avec nous, il prend le relais Roland Garros. Il y a un Français sur le court, Eric, ça se passe bien pour lui.
Salut Nicolas, salut à tous. Salut. Oui, ça se passe, il y a même deux Français sur le court. Il y en a un pour qui ça se passe très très bien, c'est Luca Vanache qui mène 6-1-6-1 face à Marco Cecchinato, l'Italien. Et puis il y a un autre duel franco-italien. Bon là, ça s'annonce pas simple pour Alexandre Muller, qui vit sa première night session sur le central de Roland-Garros, et il est déjà mené 3-0 par l'un des outsiders du tournoi, Yannick Sinner.
Ah, tout à l'heure, Eric, dans un instant, les drôles d'âmes face aux auditeurs, des questions déjà au 32-16, Adrien qui aura une question pour Polo, Kevin pour Julien, et puis les questions également sur Direct Studio. À tout de suite dans Génération After spécial drôles d'âmes.
RMC jusqu'à 22h, Génération After,
Nicolas Jamin.
Avec Fred Armel, Julien Laurent, Sven Crochet, Paul Ombrechtin, dans un instant les questions aux drôles de dames. D'abord le basket, le direct, Monaco, Bourg-en-Bresse, Maxime Tillette.
3 points d'avance pour la Rocket Team à la fin du premier carton, 19-16. La Gielbourg pénalisée par ses 6 pertes de balles dans le premier carton. Ça fait donc plus 3 pour Monaco.
C'est parti, j'accueille Kevin au 32-16. Salut Kevin.
Bien.
Salut Kevin, supporter de Manchester United. Question pour Julien Laurent.
C'est ça, le plus grand club d'Angleterre. Je voulais savoir c'est quoi les rumeurs par rapport au mercato de Manchester United, si elles sont fondées. On parle beaucoup de Kane, on parle de Mason Mount, de Declan Rouse. Je voulais savoir si c'est des sources réelles ou pas.
Julien.
Julien. Non, Kevin. Ça va être un été assez intéressant. Kevin, t'as raison, parce qu'il y a plusieurs positions où il faut se renforcer, où il faut peut-être même améliorer les profils que vous avez déjà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas non plus autant d'argent que ce qu'a pu dépenser Chelsea lors des deux derniers marchés des transferts ou ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'à un moment, John Murtough, Fletcher, Ten Hag, tout ça, ils vont devoir avoir des priorités. Donc, soit tu vas pour un neuf, mais tu sais que forcément, ça aura un impact sur le gardien que tu pourrais prendre, ou le défenseur central que tu pourrais prendre, ou le milieu de terrain, parce que tu peux pas non plus dépenser 120 millions sur un Kane, par exemple, ou un Osimhen, je sais pas, pour prendre un exemple, et aussi dépenser 100 millions sur un défenseur central, ou 80 sur un gardien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, il va falloir faire des choix. Mais c'est vrai, c'est intéressant. Ces joueurs-là, Mount, Kane, Rice, sont bien sûr, je pense, sur les listes du club, mais après, ça dépendra beaucoup des finances, bien sûr, et puis aussi des autres clubs qui sont aussi, c'est des joueurs qui sont très populaires, tu le sais. Declan Rice, par exemple, il y a pas mal de clubs qui le souhaitent. Sky Germany et Sky en Angleterre ici racontent ce soir qu'il a discuté au téléphone avec Thomas Tuchel. Donc ce sera pas facile non plus d'attirer Declan Rice à Old Trafford, mais oui, ce sera un été superbe. Et puis il y a une interview du Times avec Ten Hag ce soir, juste pour finir, où il dit qu'il a besoin de ses recrues, il a besoin vraiment pour continuer à construire quelque chose d'intéressant, et notamment il parle de son héritage au club. Il lui faut des nouveaux joueurs, il lui faut des nouvelles recrues, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut pas se tromper pour United cet été.
Est-ce que la surface financière peut changer avec une vente, ou plutôt est-ce que la vente peut intervenir avant le début du mercato ou en cours?
J'y crois pas. Okay. Je pense que les Glazers, s'ils avaient voulu vendre, auraient vendu depuis longtemps. Je sais pas ce que Kevin en pense, mais j'ai toujours été très sceptique sur cette histoire de vente. J'ai eu l'impression que pendant longtemps, les Glazers voulaient voir un petit peu ce qu'il y avait, tester un petit peu le marché et tout ça, mais sans vraiment vouloir vendre. Sinon, ils auraient déjà vendu. Je pense que les Qataris et Sir Jim Ratcliffe étaient prêts à 5 milliards d'euros. Je suis désolé, mais voilà, si tu veux vraiment vendre, tu vends à 5 milliards. C'est incroyable, quoi. Donc on verra, mais oui, tu as raison. Sur le principe, ça pourrait changer effectivement, mais j'ai peur que ce soit pas fait à temps si vraiment ça doit se faire, et que ça n'a pas vraiment d'impact sur ce qu'on verra cet été.
Merci Kevin, on fait le 32-16. Très bonne soirée à toi, tu rappelles quand tu veux. J'accueille Adrien également. Salut Adrien.
Salut Nico, salut les drôles de dames.
Salut Adrien. Salut, à vous de t'accueillir dans Génération After. Question pour Polo Breitner.
Alors j'avais une question pour Polo. J'ai suivi le dénouement de la Bundesliga 2 ce week-end avec l'accession de Darmstadt et Heidenheim.
Oui.
Avec le but de Kleindienst dans les dernières minutes. Et je voulais savoir justement par rapport à ça, si, étant donné que Hambourg finit du coup troisième et jouera son barrage contre Stuttgart, contre si je dis pas de bêtises, savoir si c'est un échec encore des clubs comme Hambourg, Nuremberg, Hanovre, tout ça qui reste sur le carreau, ou plus du coup une réussite de plus petits clubs comme Heidenheim ou Darmstadt.
Alors c'est une réponse complexe hein, que je peux te faire, parce que tu as raison si tu regardes juste le classement théorique des plus gros clubs en début de saison, mais c'est surtout une formidable publicité pour la seconde division allemande, la Zweite Liga, dont beaucoup disent, mais c'était avant le Championship ou la Championship en mais il faudra en discuter avec Julien, qui a été considéré par tout le monde en Europe comme le plus grand championnat de deuxième division du monde, avec une densité extraordinaire. Le problème, c'est que tu n'as pas le droit de te planter, parce que tu cites Hambourg, mais tu as le Fortuna, tu as Nuremberg, tu as Sankt-Pauli, évidemment, tu as Hanovre. Hanovre, je rappelle, c'est un club juste qui a la dimension d'être en Bundesliga, et il y a une dizaine d'années, ils étaient en Europe. Donc ta question, en fait, est-ce que c'est un échec? Ben, on dira non si Hambourg, évidemment, se qualifie, mais encore une fois, et puis c'est la deuxième année de suite qu'ils seront en barrage. Hein. L'année dernière, c'était contre le Hertha Berlin. Cette saison, ça sera contre Stuttgart. Donc, ils ne seront pas les favoris. C'était les favoris pour cette saison. Mais ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont en deuxième division. Quatrième. Et quand tu vois leur parcours à chaque saison, à chaque fois, ils ont eu un moment la possibilité d'être en tête de la Zweite Liga et d'essayer de se qualifier. Ils ont craqué comme ils font un petit peu chaque année. Moi, j'aime beaucoup Tim Walter, le coach d'Hambourg. Donc, on peut considérer que c'est un échec, mais il ne faut pas oublier les petits clubs. Parce que tu parles de Darmstadt ou d'Heidenheim. Heidenheim, ça a l'air de rien, mais c'est entre 35 et 40 millions d'euros. Je suis pas sûr que tous les clubs français.
C'est le 10e ou 11e budget de Ligue 1, mon cher.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et donc, il faut se rendre compte, les équipes qui jouent en seconde division. Moi, j'adore la deuxième division. Et encore, tu peux considérer que c'est un échec si tu estimes que cette année, en deuxième division, tu n'avais pas Schalke et le Werder. L'année dernière, c'était terrible pour la seconde division. Et Schalke et Werder ont réussi, en fin de parcours, à aller chercher la Bundesliga, la qualif pour la Bundesliga. Mais je sais pas, moi, vu le scénario qu'il y a eu, l'équipe d'Hambourg, évidemment, sur le papier, est la plus forte de deuxième division, mais il n'y a pas que ça.
Merci Adrien.
Schalke qui redescend et qui aura encore il y aura encore du beau monde l'année prochaine.
Ça va être le Hertha et le Schalke et peut-être Stuttgart, ça va être fou.
Merci Adrien, très bonne soirée à toi. Tu rappelles
merci
quand tu veux.
Merci les gars.
Question alors parallèle, on revient en France, Fred, pour toi sur la chaîne Twitch de RMC Sport. Message de la part d'une supportrice lançoise à Fred Hamel, pense-t-il que Franck Hez pourrait être entraîné l'Olympique de Marseille?
J'ai reçu un message de Franck Hez aujourd'hui. D'ailleurs, parce que je l'ai félicité pour le titre, j'étais à Bollard, bien entendu, samedi.
Dis-lui, ça s'est gagné la JO ce week-end.
Alors, le problème pour toi, c'est qu'il y a 35 000 personnes à Bollard qui ont réservé pour la soirée avec l'écran géant et la fête et tout ça, donc les joueurs voudront gagner à Auxerre.
À Auxerre.
À Auxerre, pardon.
Important. Ah oui, t'as raison.
Oui, c'est vrai. Auxerre. En plus, je dis bien d'habitude. Oui, je sais pas pourquoi. D'habitude, je le dis bien.
Les gens qui disent FC Metz aussi.
Ouais, en tout cas, on dit Racing Club de Lens. J'espère vraiment que Franck Hez va rester au Racing Club de Lens, parce que il y a une tenue de l'équipe très intéressante, d'un point de vue psychologique et sportif. Qui est là, et il faut pas trop bouger cette équipe en Ligue des Champions. Alors il y aura des investissements, hein, ça c'est évident, parce qu'il y aura l'argent tout simplement pour pouvoir recruter. Je pense que les joueurs Francaise, un départ de Francaise, je pense serait préjudiciable au fait de pouvoir garder certains joueurs.
Exactement.
Donc voilà. Après, je pense qu'il est très heureux à Lens.
Il a dit il veut des moyens.
Il habite dans la ville qui m'a vu naître.
Très important.
Donc ça, c'est quand même pas rien.
C'est enfin un homme heureux.
Donc voilà. Donc et je vais dire que j'ai passé une soirée extraordinaire samedi soir à Lens. On peut dire tout ce qu'on veut. On connaît tous plein de clubs, mais il y en a qu'un qui compte, c'est celui depuis tout petit. Donc voilà.
Tout à fait. Polo est avec nous également au 32. Salut Polo.
Oui, bonsoir.
Alors je dis Polo, c'est pas Olo peut-être, hein.
Ouais, non, c'est Polo. C'est
Polo. Alors t'avais un message également. C'est pas une question que tu voulais poser, je crois.
Non, j'ai pas une question. Voilà, je voulais rendre hommage au drôle de dame pour cette dernière journée. Donc, j'attendais vraiment la dernière journée pour vous appeler. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le plus dur dans des émissions, qu'elles soient télévisuelles ou audiovisuelles, c'est se renouveler. Et je pense que vous êtes renouvelé cette année avec les drôles de dame le lundi de 8h à 10h. Franchement, c'est ce qui se fait de mieux dans l'after. Malgré qu'il y a des afters de 4 heures tous les soirs, le lundi de 8 à 10, c'est ce qui se fait de mieux. Moi, je vous appelle les OFNI, hein, les objets footballistiques non identifiés.
Bien, c'est joli.
Parce que, franchement, depuis l'équipe du dimanche, que j'ai connue dans les années 90, là, mon père, il m'enregistrait l'équipe du dimanche en cassette, que je regardais le lendemain matin. Et maintenant, je j'écoute les podcasts le mardi matin, parce que je vais à la salle de sport à 6 heures. Donc, je vous écoute tous les mardis matins. Et je me dis, cette émission, elle est excellente. On parle des petits clubs en Allemagne, on parle des playlists en Italie. Franchement, vous avez su vous renouveler. C'est excellent. C'est excellent.
C'est gentil, Polo.
Moi, c'est franchement, j'ai connu là Julien Laurence, Fred, Polo, Johan. C'est excellent, malgré qu'on ait eu des chroniqueurs excellents avant, comme Simone Rovera, le Thierry Cross, le Mathieu Lorto. Mais on ne remplace pas par ce que vous faites aujourd'hui. À part Fred qui est là depuis le début,
moi ça se passe. Je tiens, c'est Papy fait de la résistance.
Moi je suis abonné Maradona. Polo, Fred, pour info, j'écoutais à l'époque, moi je suis un amoureux de la radio. J'écoutais à l'époque avec mon père la bande MW pour écouter les matchs de foot, où un de mes plus grands matchs, ça a été Arsenal-Benfica, parce que je suis supporter de Benfica, année 91 quand même. Tout ça pour Julien, un petit dédicace. Bon, à l'époque, on les avait battus 3-1. Mais voilà, la radio avec des gens comme vous, c'est que du bonheur.
C'est gentil. Merci, Polo.
Merci beaucoup.
C'est très sympa de ta part. On est tous touchés. Bah, Johan, Julien, Polo et Fred hein, qui font surtout l'émission.
Continuez comme ça. Je pense que Gilbert et Daniel, vous avoir mis le lundi de 8 à 10, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans l'after. On parle de foot. On parle des vieilles références. On parle
tout à fait,
comme on l'aime des années 80, la vieille Coupe des Champions.
C'est un peu vintage, hein, monsieur, le lundi soir également. On parle de tout, mais il faut aussi qu'on respecte les timings, mon cher Polo, parce qu'en fait, on est très en retard. Et je suis désolé de te couper la parole, mais bien sûr, on est tous très touchés
par ton appel. Merci, Polo. Bravo à vous.
Très bonne soirée à toi. Salut. Nous, on revient dans un instant pour les directs et bien sûr, évoquer notamment la Juve avec Johan. À tout de suite sur RMC.